Je vous demande d'accueillir Philippe Fitzgerald.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis mort le 23 mai 2010, le jour de mon dernier match de rugby. Ce jour-là, j'ai traversé une ligne blanche. C'est la ligne blanche qui sépare le terrain des bandes remplaçants. J'ai traversé une ligne blanche et j'ai dit au revoir à 25 ans de rugby. Une porte s'est refermée derrière moi, à jamais. C'est cette porte qui se referme quand on quitte le terrain pour la dernière fois, quand on enlève le maillot pour la dernière fois et quand on enlève les crampons pour la dernière fois. Ça s'appelle la petite mort. Et cette petite mort m'a hanté, m'a marqué, mais elle a fini par me structurer. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler de moi. Je vais vous parler plus en général de ce sport, le rugby, ce sport professionnel qui est le rugby, depuis peu d'ailleurs, parce que c'est un sport professionnel jeune, depuis 1995. Et je vais vous parler de ces problématiques particulières qui se posent pour ces joueurs de rugby lorsqu'ils s'arrêtent. Donc je suis là plutôt pour vous sensibiliser et pour aussi tirer la sonnette d'alarme. Il y a peu d'années encore, le joueur de rugby de haut niveau alliait la pratique de son sport avec l'exercice de notre métier. Et dans cette histoire, les clubs jouaient un rôle fondamental, très important, puisque les clubs étaient là pour élever les joueurs socialement. Le club trouvait un travail pour le joueur s'intégrait dans la cité, et ainsi on s'occupait de son avenir. Aujourd'hui, en 2014, je ne suis pas sûr que les clubs de top 14, c'est la première division de rugby français, s'occupent de leurs joueurs de la même façon. Et après, vous pouvez me dire, Monsieur Fitzgerald, vous êtes gentil, mais ces gens-là gagnent très bien leur vie. Ce qui est vrai en partie, le salaire moyen en top 14 est 14 000 euros net. Donc ils gagnent ce montant-là, mais en même temps, pendant peu de temps. Et finalement, ce n'est pas tant que ça. Et donc la question que je pose aujourd'hui, et c'est de savoir si on paye des joueurs ce montant-là, est-ce qu'on peut, à la fin de la carrière, s'en laver les mains ? Donc pour commencer à répondre à cette question, j'ai 5 choses à vous dire. 5 choses, et c'est le fruit de mon vécu, mais c'est aussi le fruit de mes échanges ces dernières semaines, lorsque j'ai préparé cette intervention, parce que j'ai beaucoup discuté avec Proval, c'est le syndicat des joueurs de rugby, et aussi avec l'agence 15, c'est une association qui travaille avec Proval et qui s'occupe de la reconversion des joueurs. Donc, et d'ailleurs, je remercie ces personnes, parce que finalement, ils ont mis de l'ordre dans ma tête, c'est la chose que j'ai vécue, et maintenant je vais vous le livrer maintenant. Il y a 5 points, 5 choses. La première chose, c'est le deuil de la carrière, le deuil de la vie de sportif en général. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le joueur doit dire au revoir à certaines choses. C'est la fin de ces moments de bonheur intense qui sont vécus collectivement. C'est la fin de ces joies, c'est la fin de ces déceptions, c'est la fin de cette tristesse parfois. C'est la fin de cette vie privilégiée en groupe où on est choyé, où tout est préparé pour nous, minutieusement. C'est la fin de ces moments où le joueur va chercher quelque chose au fond de lui-même pour ensuite le livrer, pour le donner sur le terrain, pour le bien de l'équipe. Et ensuite, c'est la fin de ce travail en groupe où on est solidaire, où on est uni, où on cherche les solutions ensemble, presque comme un seul homme. C'est la fin de ces moments-là. Et c'est la fin aussi, on dit adieu à cette reconnaissance sociale. On dit adieu à la place du sportif dans la ville et la façon dont il est porté dans le regard de l'autre. Lorsque c'est fini, celui pour qui la vie a été organisée pendant des années ne sait plus parce qu'il n'a plus de repères. Celui pour qui on traverse la rue pour dire bonjour, ne sait plus que, quand ces personnes ne traversent plus la rue parce qu'il ne sait plus qui il est. Mais ce n'est pas ça le plus difficile. Le plus difficile, c'est qu'il n'est plus dans le groupe. Il n'a plus ses potes. Il n'a plus de vie sociale. Il ne sait plus ce qu'il représente. Pour moi, c'était le plus difficile parce qu'après, on se sent à sa place nulle part. On se sent à sa place nulle part et ça donne quoi ? Ça donne une sensation d'immense solitude. Et ça engendre de la dépression. Et on n'a pas envie d'en parler parce que ça fait pas rêver. C'est des aveux de faiblesse et on n'a pas envie de rester dessus. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un peu plus sur le côté physiologique. Pourquoi ? Parce que le jour de rugby s'entraîne de façon intense. Deux entraînements par jour, la muscu, les courses, les plaquages, les mêlées, etc. Donc il produit beaucoup d'endomorphines. Les endomorphines qui circulent dans son corps. Et quand on s'arrête, c'est très difficile. On ne peut plus s'entraîner de la même façon. Donc on ne produit plus les endomorphines de la même façon. Ça fait qu'on n'est plus le même dans sa tête et dans son corps. On ne se comprend plus et son entourage non plus. Troisième point, c'est le côté financier. Pour les jours de rugby, il y a une obligation de reconversion. Pourquoi ? C'est tout simple, c'est parce que le jour de rugby ne gagne pas assez pour assurer le reste de ses jours. Le rugby est encore loin du foot. C'est encore loin du foot, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le jour de rugby dit au revoir à un métier passion qui laisse sa place à un métier alimentaire. Et ça, c'est un gros choc. Parce qu'on est très très loin, des conditions de travail dans un grand club de rugby professionnel. Et forcément, on est très loin de ses salaires. Le quatrième point, après vous pouvez penser que ce soit banal, mais c'est sur le côté organisation de vie. Parce que quand on s'entraîne de façon dans un club professionnel, la semaine, on a des plages de repos. On peut se reposer, on fait autre chose, on peut aller récupérer ses enfants à l'école, on peut aller faire les courses, on est disponible. Et c'est le week-end où ça se passe. Quand on s'arrête, c'est l'inverse. Et on ne comprend pas. On voit comme les gens normaux, entre guillemets, travaillent. Et c'est un gros choc. Et ça donne quoi ? Ça donne une sens de désorientation importante aussi. Et le cinquième point, c'est plus sur le plan personnel. Et c'est quelque chose qui m'a été soufflé comme ça, sans plus de conviction, mais parce qu'il n'y a pas de statistiques. Mais c'est inquiétant aussi parce que pour ces jours de rugby, il y a un grand taux de divorce dans les premières années après la fin de la carrière. Donc ça fait 5 points. 5 points, et c'est, à mon sens, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, comme je vous ai dit, c'est le début. Et pourquoi c'est le début ? Parce que le sport professionnel qui est le rugby est très jeune, depuis 1995. On ne sait pas comment les générations qui jouent actuellement vont vivre l'après-rugby. J'avais 18 ans en 1995, j'étais à cheval entre le rugby professionnel et le rugby amateur. C'est important, pourquoi ? Parce que j'ai toujours pensé à ma reconversion, je pense que je n'ai pas spécialement de mérite, j'ai toujours pensé que c'était naturel. Donc j'ai continué mes études de droit pendant toute ma carrière, je suis maintenant avocat, c'était mon objectif. J'en suis content. Mais là, encore une fois, c'était une grande chance parce que finalement, je n'étais pas dans un centre de formation à partir de 16 ans, 17 ans. Je n'étais jamais, comment dire, coupé du monde réel, entre guillemets. Et donc, avec ça en tête, avec la façon dont je pense avoir prévu la fin de la carrière, quand j'y pense à cette petite mort, je me dis, bon, pour moi, c'était quand même pas mal. Je me souviens un jour où j'étais dans la voiture à Toulon, quelques mois après la fin de la carrière. Je me trouve à un feu rouge, comme ça, dans la voiture. Et je m'éclate en larmes, tout seul, comme ça. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu fais ? C'est très étrange. Mais c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé, ça a fait le tilt. C'est à partir de ce moment-là où les anciens autour de moi ont commencé à se confier. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre ce que eux, ils avaient vécu. Maintenant, la sonnette d'alarme a déjà été tirée à plusieurs reprises. Il y a un ancien jour du Stade français, vous le connaissez peut-être, Raphaël Poulain, qui est un peu le porte-drapeau, le porte-parole de cet exercice, entre guillemets, qui a sorti un livre qui s'appelle « Quand j'étais Superman ». Il travaille actuellement sur un projet de film intitulé « Les héros meurent jeunes ». Et après avoir vu le teaser de ce film, ce film qui est en train d'être tourné, je peux vous dire que ça risque d'être phénoménal. J'ai les chairs de poule même en pensant avec ces témoignages. Et aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a Proval, le syndicat des joueurs. Il y a aussi Agence 15 qui travaille étroitement avec les clubs, avec les joueurs surtout, sur le présent et sur l'avenir. Ils essaient de faire passer des messages que ce que vous faites maintenant est très bien, mais attendez-vous à autre chose d'ici peu. Et maintenant, la sonnette d'alarme peut prendre une forme beaucoup plus dramatique. Un ancien capitaine de l'équipe de France qui finit devant la cour d'assises parce qu'il a tué sa femme. On constate, et puis, qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de responsabiliser. Et ça commence où ? À mon sens, ça commence avec les clubs. Ça commence avec les clubs, et là aussi, c'est fruit de mes discussions avec Agence 15. On parle souvent de la responsabilité sociale de l'entreprise. C'est une notion que j'ai vue dans mes études. C'est une notion que l'on entend à droite à gauche. Maintenant, dans les clubs de rugby, je ne suis pas sûr qu'on est sur une notion de responsabilité sociale. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'on est sur un système où on presse les joueurs, comme les citrons, suivant l'expression. Donc, au vu de ça, à mon sens, on est quand même redevable envers ces joueurs. Je pense qu'on ne peut pas faire abstraction de son bien-être physique et mental, et surtout de son avenir. Et là, encore une fois, avant, les clubs élevaient les joueurs socialement. Maintenant, et c'est une expression de l'agence 15, on parle de désintégration sociale. Et c'est pas mal. Donc, pourquoi pas, on pourrait s'inspirer du modèle néo-zélandais où on embauche quelqu'un à plein temps et cette personne s'occupe justement de la reconversion des joueurs. Je trouve que c'est une initiative fabuleuse. Maintenant, le club est aussi responsable, et ça c'est mon avis, c'est vraiment personnel, parce que le rugby, sport équipe par excellence, puise dans l'affect. Puise dans l'affect, c'est moteur et c'est l'arme fatale d'une équipe. Parce que le rugby cherche dans l'affect la source de la cohésion d'une équipe et la solidarité d'une équipe. Donc à la fin, tout a été mis en œuvre pour qu'on soit solidaire, lié. Et à la fin, on quitte ce groupe, on ne comprend pas, on est essoré, si on n'a pas fini une formation, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas où il faut aller. Et pour les raisons que j'ai énumérées plus tôt, c'est compliqué pour les joueurs. Donc, j'ai fini avec un mot sur la responsabilité de la société, si j'ose le formuler comme ça, qui regarde ses joueurs et qui les élève au panthéon et qui joue finalement à travers eux. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas trop envie d'en parler, on n'a pas envie d'entendre ses aveux de faiblesse parce que ça fait pas rêver. Ce qui fait rêver, c'est le rugby club toulonnais avec ses deux titres sur le balcon de la mairie. Et je suis d'accord, c'est fabuleux. C'est une performance incroyable. Toulon, l'RCT, est devenue la place forte du rugby européen. Et maintenant, dans cette euphorie, il y a quand même des joueurs qui tirent leur révérence. Et je pense à eux. Je pense à eux parce que la porte claque, se referme derrière eux, et on finit dans le noir, un peu tout seul. Je pense à quelqu'un comme Giovanni Kerk, peut-être vous connaissez, qui était mon capitaine, un joueur exemplaire, qui a dynamisé à lui tout seul l'RCT, avec un cœur énorme. Mais là, c'est clap de fin. L'anonymat. Et si on était tous responsables de ce que l'on porte au nu, ceux qui ont mouillé les maillots, qui ont rempli nos après-midi, dans les tribunes, ou dans les canapés, ceux qui ont fait nos conversations, et ceux qui ont bercé nos rêves de jeunesse. On consomme quelque part nos héros, on en consomme un peu, et après on les laisse au bord de la route. Mais je pense qu'il est l'heure d'y penser sérieusement à qui ils sont, à leur rôle dans nos vies et à leur place dans la société qui ne se termine pas le jour où ils traversent la ligne blanche. On en reparlera, j'en suis sûr. Merci.